L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette première émission thématique d'été, puisque selon la tradition, les mois de juillet et les mois d'août sont consacrés à des émissions thématiques, et celle-là est consacrée à la multiplication des peurs et des interdits dans notre société. Et nous recevons Gérald Bronner, sociologue, professeur à l'Université Paris Diderot et co-directeur du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Gérald Bronner, bonjour.
Bonjour.
Quand je dis nous, vous recevons, nous, c'est Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Jean-Louis Bourlange, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Gérald Bronner, vous êtes sociologue, professeur, je l'ai dit, à l'Université Paris Diderot et co-directeur du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez reçu le prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2003 pour l'Empire des croyances et le prix européen des sciences sociales d'Amalfi en 2009 pour la pensée extrême. En mars 2014, vous avez publié aux presses universitaires de France La démocratie des crédules, ce qui nous avait donné l'occasion et le plaisir de vous recevoir. Avec vous, nous allons nous intéresser à la multiplication des interdits législatifs et à leurs effets sur les comportements individuels et collectifs. Un projet de loi sur la modernisation de notre système de santé a été adopté en première lecture le 14 avril dernier. Ce texte ajoute aux mesures destinées à organiser l'accès aux soins de nouvelles interdictions et obligations relatives à divers produits et comportements. Les paquets de cigarettes seront ainsi, et dès le mois de mai 2016, neutres, sans typographie, forme ni couleur distinctive. Il sera aussi prohibé de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Les mesures hostiles au tabagisme ont atteint un point culminant avec la proposition finalement retirée du député du Rhône Jean-Louis Touraine, visant à protéger ceux qui n'ont jamais fumé en interdisant la vente de tabac à tous les jeunes nés au XXIe siècle. D'autres interdits, présentés par deux amendements du député de l'Isère et neurologue Olivier Véran, ont également été actés. Les sites internet dits pro-ANA faisant l'apologie de l'anorexie pourront être poursuivis pour incitation à la maigreur extrême. De même, le recours à des mannequins dont l'indice de masse corporelle serait jugé trop faible sera prohibé. Le député écologiste de l'Hérault, Jean-Louis Roumégas, a fait part de ses doutes liés à une hypertrophie législative qui n'est pas forcément de bon aloi. Encadrés au même titre que le tabac par la loi Evin, les produits alcoolisés sont eux aussi frappés de nombreuses interdictions. Un collectif de 32 parlementaires de tous partis a récemment publié une tribune sur ce sujet intitulée « Clarifier pour mieux protéger », invitant à faire la part des choses entre incitation à l'excès de consommation d'alcool et mise en valeur du patrimoine français. Une association Fruits oubliés lutte actuellement dans le Gard pour faire revenir les législateurs sur une interdiction qu'elle estime infondée, frappant la culture d'anciens cépages comme le clinton. Réintroduire ces espèces rares et adaptées à une culture biologique serait pour l'association un acte de défense du patrimoine national. Un second projet de loi, présenté en première lecture à l'Assemblée le 19 mars, a également soulevé des doutes relatifs à une supposée surveillance de masse. Qualifié de profondément liberticide par la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, ce texte prévoit d'accroître les moyens de contrôle des interdictions numériques actuelles et d'autoriser la collecte de données personnelles. Le Premier ministre se félicitait quant à lui de présenter un texte équilibré, efficace, afin de lutter contre les activités terroristes. Paradoxalement, pour reprendre l'expression de Raymond Aron, c'est l'utilisation des peurs collectives qui confère aux organisations terroristes, je cite, « un impact psychologique hors de proportion avec les effets physiques produits et les moyens utilisés ». Gérald Bronner, vous êtes donc spécialiste des croyances collectives et des biais cognitifs. Selon vous, Les interdictions permettent-elles de rassurer les populations ou au contraire alimentent-elles les craintes collectives? Nous sentons-nous aujourd'hui davantage en sécurité qu'il y a 20, 50 ou 100 ans? Les théories complotistes en tout genre sont-elles renforcées ou contredites par les lois prohibitives? Si l'on craint les interdictions liberticides, que répondre à la maxime d'Henri Lacordaire selon laquelle entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Selon l'usage, vous pouvez non seulement choisir entre ces questions, mais même vous en poser à vous-même une autre. Gérald Brunner.
Merci beaucoup Philippe Meyer. Écoutez, à tout seigneur, tout honneur, je me référais au grand Raymond Aron, avec lequel je me sens totalement en accord. Je pense qu'en effet, et c'était déjà vrai de son temps, mais c'était encore plus vrai aujourd'hui où nous vivons, disons, dans une société de la dérégulation, de l'information, hein, où nous croulons en quelque sorte sur la masse d'informations disponibles. Il y a une confusion permanente entre la visibilité d'un certain nombre de phénomènes et la représentativité de ces phénomènes. Puisqu'on parle de peur et qu'on vient de parler de terrorisme, il est évident. Raymond Aron avait bien raison et c'est encore plus vrai aujourd'hui que le terrorisme s'est joué sur la confusion entre cette visibilité et cette représentativité. En réalité, le risque, si vous voulez, que vous prenez de mourir d'un attentat terroriste aujourd'hui est quand même infinitésimal, il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, cette crainte est sur toutes les bouches. Elle organise en effet tout un cortège de dispositions, de lois qui ne sont pas forcément illégitimes, mais qui sont peut-être sans commune mesure avec les risques réels. Donc il y a vraiment une différence entre la perception de ces risques et, disons, l'acuité et la réalité de ces risques.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je suis entièrement d'accord avec cette analyse sur le riche. Je crois que Raymond Aron a raison. Simplement, il faut un stoïcisme de la part de la société pour accepter l'idée que, effectivement, face au terrorisme tel qu'il s'est manifesté ces derniers mois, en réalité, on peut gesticuler, mais il y a bien peu de choses à faire. Il y a des choses à faire en matière de pénétration des milieux, etc. Mais ça n'a rien à voir avec toute cette théâtralisation de la protection. Ces jeunes gens en uniforme et en pistolet mitrailleur qui sont censés nous protéger et dont on voit vraiment pas à quoi ils peuvent servir. Mais il y a cette espèce de besoin d'action qui est réel. Alors là, c'est une question de sang-froid. On a sans doute moins de sang-froid en France que les Britanniques n'en avaient pendant le Blitz, pendant la bataille d'Angleterre, où ils acceptaient des risques importants avec un certain sang-froid, sachant qu'on faisait ce qu'on pouvait pour s'en protéger, mais qu'il y avait au-delà de ce qu'on faisait, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est réel, c'est que nos sociétés progressent en matière de connaissances. Et donc, tout un ensemble d'activités, de consommation, de choses qui apparaissaient comme tout à fait bénignes et normales il y a une vingtaine ou une quarantaine d'années, sont maintenant, on a repéré des éléments toxiques, des éléments pervers. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qu'on aurait mieux fait d'ignorer, si je puis dire, parce que en réalité, on est quand même en face de tout un ensemble de dangers qui sont identifiés. Pas seulement, je vois très bien ce que vous écrivez sur les dangers imaginaires et les craintes, la croyance, le mélange de crédulité et de paranoïa. Enfin, les deux choses étant liées, mais même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Les crédules n'empêchent pas qu'il y ait des choses qui existent quand même réellement. Et là, est-ce que c'est possible de résister pour une société à l'idée et de faire quelque chose contre des éléments toxiques nouveaux en matière alimentaire? Par exemple, on s'aperçoit qu'un tas de choses qui nous paraissaient tout à fait convenables sont mauvais pour la santé, mauvais pour la rate, mauvais pour le foie, donnent le cancer, etc. Et on vit dans une espèce de fièvre obsidionale. Et il est spontanément légitime, même si c'est un peu absurde, que le législateur s'en saisisse, ce qui aboutit quand même à un monstre législatif et réglementaire. Est-ce que vous croyez qu'on peut lutter contre cette tendance ?
Gérald Brunner.
Vous pointez là, Jean-Louis Bourlange, un point essentiel. Nous voilà déjà au cœur du débat, en quelque sorte. Bon, merci d'aller à l'essentiel. Je dirais que sur la question de l'invasion de ces interdits, si on prend un peu de distance, on s'aperçoit qu'en fait, c'est assez ambivalent. Et ça me permet d'aller sur le point que vous venez de mentionner. Par exemple, il y a tout de même eu dans nos sociétés un recul d'un certain nombre d'interdits, c'est-à-dire par exemple des interdits relatifs aux pratiques sexuelles, à l'homosexualité, des interdits relatifs à la responsabilité des femmes, les droits qu'elles ont d'avoir par exemple un compte bancaire, de travailler sans demander l'autorisation de ses maris. Mais il n'y a pas si longtemps, hein, on oublie cela. Et tous ces interdits en réalité étaient des ersatz de la pensée religieuse. la place que doit avoir la femme dans le monde par rapport à l'homme, la place que nous devons accorder à certaines, disons, pratiques sexuelles, ou même des interdits alimentaires, etc. Ces interdits-là ont reculé, y compris au niveau moral et au niveau législatif. Et on voit au contraire une invasion d'interdits, et vous pointez bien le problème, concernant l'alimentation, d'une façon générale concernant la santé publique et l'environnement. J'y vois là une expression de cette nouvelle idéologie de substitution qui se substitue à ces grands systèmes de représentation religieux. Certaines de ces propositions législatives sont frappées au coin du bon sens, bien entendu, mais d'ailleurs on pourrait dire que certaines propositions morales issues de la religion ne sont pas totalement déraisonnables.
Voilà. Voilà. Les femmes, quand même, ça se défend.
Non, je suis évidemment totalement opposé à cela, mais vous comprenez bien que vous pouvez admettre une certaine forme de sagesse morale, à la limite même dans un texte religieux, et ne pas croire que quelqu'un est capable de marcher sur l'eau, si vous voulez, d'autres propositions loufoques de ce genre. C'est tout à fait mon cas. De la même façon, dans cette armada législative qui vise à placer un œil permanent sur ce que nous mangeons, à nous faire croire que nos assiettes sont empoisonnées, que l'air que nous respirons est empoisonné, et on en a de nombreux indices statistiques, c'est-à-dire les enquêtes d'opinion montrent qu'en effet, il y a une nette progression des craintes sanitaires et des craintes environnementale à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000. Je n'y vois pas là une coïncidence, puisque c'est le moment de la grande dérégulation du marché de l'information, où se diffusent donc toutes sortes de propositions inquiétantes. Et je crois que certaines de ces propositions inquiétantes sont certainement raisonnables, mais beaucoup d'entre elles ne le sont pas. N'est-ce pas ? Beaucoup d'entre elles ne le sont pas. Et il n'est pas vrai que, parce que ces craintes infondées sont actées d'un point de vue législatif, qu'elles sont pour autant raisonnables d'un point de vue scientifique. Donc là encore, on est dans une confusion entre la visibilité et la représentativité des phénomènes dont on parle. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, prenons un de ces interdits, la loi Abeille, qui a été récemment discutée. Il est maintenant interdit, par exemple, d'avoir des bornes Wi-Fi dans les maternelles. On peut s'en réjouir, dans les crèches, pardon. On peut s'en réjouir, parce qu'évidemment, dès que ça touche aux enfants, il est normal d'avoir... Moi, je suis papa, je comprends cette crispation. Mais en réalité, aucune donnée scientifique raisonnable ne justifie cette interdiction. Ça fait plaisir à une certaine opinion publique et en réalité, ça creuse, à mon avis, le sillon des craintes. Et on ne va pas dans la direction de l'intérêt général quand on flatte de cette façon les pentes les moins honorables de l'opinion publique. Donc, quelles sont les solutions ? Je suis plus fort pour faire les diagnostics que pour trouver les solutions, mais il est évident que ces solutions seraient multiples. D'une part, je vois la possibilité d'une nouvelle forme de militance pour des citoyens raisonnables qui en ont marre d'être intoxiqués, cette fois non pas par le contenu de leur assiette, mais par l'idéologie dominante, cette idéologie de la peur, qui suggère justement cet appareil législatif, parce que finalement l'homme politique ne se fait que le reflet de ce qu'il craint, c'est-à-dire la trahison du peuple en quelque sorte. Moi je vois cette excroissance législative comme une expression de la crainte du politique de trahir le peuple de façon incessante. Et puis c'est aussi un grand jeu de mistigerie de la responsabilité, c'est-à-dire comment faire porter aux autres le poids de la responsabilité de ses décisions. Et de ce point de vue, je ne serais peut-être pas d'accord, mais je crois que le principe de précaution et la constitutionnalisation du principe de précaution n'est qu'une expression de ce grand jeu de mistigerie de la responsabilité.
La multiplication, cette hypertrophie législative dont vous parlez, je me demande si ça n'est pas quand même davantage que ce que vous lui prêtez comme raison, que ces raisons ne sont pas davantage cette incapacité du politique à agir sur ce qui pose vraiment problème et donc à se précipiter sur des problèmes dont on n'est pas certain qu'ils se posent, voire des problèmes qui sont imaginaires ou des problèmes qui sont insuffisamment prouvés, plutôt que la crainte de trahir le peuple. Mais si vous permettez, je voudrais vous poser une question qui a à voir avec la loi sur la sécurité et sur le renseignement. Dans les années 70, quand vous étiez convoqué par un juge pour une affaire, vous sortiez soit libre, soit en détention provisoire. De nombreuses voix se sont élevées à ce moment-là contre l'abus de la détention provisoire. Et on a donc inventé quelque chose qui s'appelle le contrôle judiciaire. On a l'impression aujourd'hui que ça remonte à la plus haute antiquité, mais il n'en est rien, ça. Et il y a eu quelques années après une étude sur l'application de cette nouvelle mesure. Et on s'est aperçu que ça n'avait changé en rien le nombre des détentions provisoires, que ça n'était pas ceux qui étaient en détention provisoire qui profitaient du contrôle judiciaire, donc il y avait une mesure moins lourde, mais ceux qui autrefois n'avaient rien, pouvaient rentrer chez eux libres en attendant qu'on les reconvoque, sur qui on faisait peser le contrôle judiciaire. Est-ce que ce mouvement n'est pas comparable à celui qui peut se passer en dessous de cette loi sur le renseignement ?
Oui, on peut le craindre. Il faudrait avoir, évidemment, faudrait discuter de ces questions de façon documentée, hein, pour voir si effectivement, quantitativement, les choses ont progressé. Mais
est-ce que ce n'est pas dans la culture de l'administration et dans la culture des politiques que de faire peser les mesures qui sont censées alléger les lois précédentes sur ceux qui, jusqu'à présent, ne voyaient rien peser sur leurs épaules?
Alors, d'abord, il y a effectivement, dans tous ces interdits, ou même ces dispositions que vous évoquiez, il y a quand même assez souvent une idée punitive, hein, une idée de punition par anticipation. Mais d'un autre côté, pour me faire l'avocat du diable, je vous dirais que la science des incitations est très complexe. Dans le fond, le politique a trois façons d'agir. Il agit par punition, par exemple par un interdit. Il peut agir par incitation, positivement, un allègement fiscal, que sais-je, des incitations, des primes. Et il peut agir aussi par, je dirais, la célébration d'un certain nombre de valeurs qui seraient censées, disons, indiquer un certain nombre d'actions. Bon. Et le problème, c'est que les incitations, elles ont bien souvent des effets contraires à l'intention de ceux qui les portaient. Donc je n'accuserai pas les politiques, en l'occurrence, ou ceux qui ont pris ce genre de décision, d'avoir été mal intentionnés. Ils étaient peut-être bien intentionnés, mais quelquefois, encore une fois, les intentions se retournent. Je vais vous donner un seul exemple, qui est annexe, mais qui n'est pas tellement hors sujet en réalité. On a, dans certaines crèches, remarqué que les gens arrivaient en retard. Et ça coûte de l'argent parce que les gens sont obligés de rester, etc. On s'est dit, eh bien, puisque c'est cela, on va les punir. On va les punir et de sorte que les gens arriveront à l'heure. Donc on leur a dit, par exemple, je sais pas, 10 euros, vous aurez 10 dollars ou 10 euros de punition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens sont arrivés encore plus en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était une autorisation payée à venir en retard. C'est-à-dire qu'ils achetaient un droit moral par un droit économique, en quelque sorte. Donc vous voyez, le domaine des incitations est très complexe.
C'est les émissions de CO2, quoi.
Finalement, la science des effets pervers, on appelle aussi les effets émergents contre-productifs ou les externalités négatives, si vous voulez, en économie. C'est ça, les sciences sociales s'intéressent principalement à ça. Donc, je suis assez bien passé pour vous dire qu'il y a souvent une déconnexion entre les intentions et les effets de ces intentions, même en politique.
Sylvie Kaufmann.
En fait, pour les punir, il faut mettre les bébés à côté de bornes Wi-Fi.
Et de préférence dehors.
Je sais, Sylvie, vous devenez de plus en plus réformatrice.
Pour rester sur le thème de la surveillance, je voudrais savoir, dans la lumière de ce que vous nous avez exposé sur le conflit entre visibilité et représentativité, comment vous interprétez ou comment vous analysez le comportement des Français après les attentats de janvier, c'est-à-dire où se situe cette peur collective qui a été déclenchée? Comment est-ce qu'elle a évolué? Il y a eu d'abord cette manifestation du 11 janvier, où justement, dont l'un des slogans était, en anglais curieusement, « We are not afraid », nous n'avons pas peur, donc une affirmation, enfin un rejet de ce réflexe naturel qui était la peur. Et même à l'étranger, j'ai entendu beaucoup de gens qui s'attendaient la veille du 11 janvier à ce qu'il y ait peu de manifestants, parce que vu de l'étranger, le réflexe naturel attendu était que, par peur, les gens ne se rassemblent pas, justement, après ces attentats. La peur, l'émotion, est-ce qu'il y a eu tout de suite aussi cette réaction « on ne veut pas d'un Patriot Act à la française », assez bien partagée, je crois, cette réaction, en tout cas exprimée. Alors, vous avez peut-être une autre interprétation. Il n'y a pas eu ce sentiment de guerre, alors que le mot a été utilisé par plusieurs élus ou dirigeants, mais je ne crois pas avoir perçu dans la population ce sentiment d'être entré dans une phase de guerre, contrairement à ce qui s'était passé aux États-Unis à une autre période. Voilà. Est-ce que vous avez vu, vous, une clameur pour une sécurité accrue, une surveillance de masse, des dispositifs législatifs et réglementaires? Voilà. Comment est-ce que vous analysez ça,
Gérald Bronner?
Mais là encore, mon sentiment est ambivalent. En effet, j'ai été, comme la plupart de mes concitoyens, impressionné et fier d'une certaine façon d'être français au moment des grandes manifestations, finalement, et de la sagesse qui s'y exprimait, du calme relatif. Et en effet, les Français paraissent avoir, même si je me méfie du terme les Français, parce qu'en réalité ce sont des catégories qui n'ont pas du tout les mêmes identités, mais donc, grosso modo, parlons comme ça de façon métaphorique, les Français semblent avoir assez de sagesse politique pour ne pas être tombés, a priori, dans le piège grossier que tendait la propagande terroriste. Mais d'un autre côté, vous aurez remarqué que d'une part, un certain nombre de festivals ont été annulés. Et que vous connaissez le principe de précaution, on a connu là le principe de censure par précaution. Hein, des festivals, par exemple, de dessins de presse, des films qui ont été retirés, etc. Il y en a de très nombreux exemples. Hein. Et donc là, ça laisse un goût un peu amer parce que c'est une forme de victoire. Hein. Ensuite, on a entendu toute une série de voix dire à propos de Charlie Hebdo que oui, bah, tout de même, il l'avait un peu cherché, même si c'était horrible ce qui s'est passé, etc. Donc ça, c'est pas forcément non plus c'est une voix un peu discordante. Par ailleurs, contraire à ce que vous avez dit, il y a des sondages qui montrent que les Français encouragent, peut-être pas un Patriot Act à la française, mais sont favorables et très majoritairement favorables à la mise sous tutelle en quelque sorte d'Internet, ou en tout cas à un regard invasif sur Internet. À tort ou à raison, je ne discute pas de ces questions, mais là, on voit tout de même qu'il y a une tension, un désir de surveillance assez fort, même si parallèlement, vous avez complètement raison, se développe aussi l'idée d'un Big Brother qui envahirait. Moi, je crois que le principal risque, et je l'ai écrit d'ailleurs dans une chronique du Point, le principal risque, c'est le Big Brother qui est en nous. C'est-à-dire de nous abstenir d'un certain nombre d'actions par crainte anticipée. Et c'est exactement ce que vise le terrorisme. D'ailleurs, hein, dans le terme terrorisme, il s'agit d'instaurer une forme de terreur imaginée. Ce qui n'implique pas qu'il ne faille pas surveiller les choses de très près. Par exemple, le site Stop Djihadisme, par exemple, qui était une des réponses, est plutôt intéressant. Je crois que le pouvoir politique a pris la mesure de la forme du message, qui était très importante, parce que les djihadistes terroristes, eux, ont pris la mesure de cette forme. Ils ont compris qu'aujourd'hui, on est dans une société médiatique, de communication. Donc, ça a été beaucoup commenté. Ils ont singé la forme, je dirais, à la fois des séries télévisées, des fictions hollywoodiennes, des jeux vidéo dans leur mode de communication. Le gouvernement a répondu un peu sur ce mode-là, mais par exemple, vous avez une alerte sur la détection de la radicalisation des jeunes esprits, avec un certain nombre de symptômes. Hein. Attention, si votre enfant, par exemple, ne veut plus faire de sport, s'il passe trop de temps sur Internet, etc., etc. Bon, et là, si vous voulez, c'est assez amusant, parce qu'en réalité, si vous faites un calcul de probabilité sur la probabilité que ces signes indiquent réellement une radicalisation, compte tenu de la rareté, heureusement, de la radicalisation des jeunes esprits, vous n'avez quasiment aucune chance que ce test soit valide. Ce qui veut dire que le ministère va probablement crouler sur un certain nombre de signalements qui n'auront pas lieu d'être. Et donc, c'est très ambigu. La norme, l'interdit et la peur sont vraiment dans une dialectique. L'un nourrit l'autre. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est là tout la difficulté de l'exercice politique.
Michaël Avigel.
Oui, ce qui est intéressant, quand on jette un regard un peu plus européen sur ce phénomène, c'est la parallélité, en quelque sorte, parfois avec quelques années de décalage, mais de ce mouvement, c'est-à-dire cette multiplication d'interdits, cette concentration sur, par exemple, ce que les dangers qui pèsent sur notre nourriture, mais aussi et je veux pour exemple le mouvement contre la vaccination, c'est-à-dire tout ce qu'on voit comme danger de la médecine, même pas moderne, mais la médecine telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à maintenant. Et donc, c'est très intéressant de constater que tout ça, c'est partagé par la plupart des sociétés européennes, par la société américaine. Je m'interroge cependant sur deux grands sujets où vraiment je suis étonnée par le clivage culturel. C'est tout d'abord le nucléaire. C'est-à-dire, il n'y a aucun approchement de la perception du nucléaire entre la société allemande et française. Alors que sur plein d'autres sujets, on a les mêmes peurs, la même surlégislation. Comment vous expliquez ça que deux pays, je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux, qui sont aussi proches géographiquement, qui sont aussi interconnectés économiquement, réagissent de façon aussi divergente et majoritairement différemment. Et l'autre grand sujet, c'est la protection des données personnelles, où encore une fois, les préoccupations de la société allemande et française sont complètement divergentes, c'est-à-dire ça va jusqu'au point que Google Earth ne marche pas en Allemagne, puisqu'ils n'ont pas pu enregistrer. Il y a eu tellement un tel mouvement de refus de captation des maisons qu'il y a des rues entières qui sont blancs. Donc, alors qu'en France, cette préoccupation, à ma connaissance, n'a jamais rien motivé. C'est juste un exemple parmi d'autres, mais je pense c'est intéressant d'analyser pourquoi ils restent dans ces sociétés c'est des cœurs où ils ne sont pas affectés par un mouvement généralisé.
Gérald Bronner.
Oui, alors, d'abord sur la première partie de ce qu'a dit Michaela Weigel, vous avez parfaitement raison, ces inquiétudes qui peuvent se transformer en interdits, éventuellement législatifs, sont une caractéristique des sociétés, disons, occidentales, démocratiques, avec des spécificités nationales, on va y revenir, mais parlons d'abord de l'homogénéité entre ces pays. Oui, le cas du vaccin est un très bon exemple, en particulier en France, puisqu'on sait que 9% des Français se méfiaient des vaccins au début des années 2000, et selon une enquête menée par des collègues marseillais, on atteint presque 40% aujourd'hui, 20% selon une autre étude. Enfin, de toute façon, on atteint des scores extrêmement inquiétants, quoi qu'il en soit. Bon. Et le vaccin est tout à fait emblématique, je pense, de cette idéologie que j'évoquais tout à l'heure et qui inspire plein d'interdits. Cette idéologie, je ne vais pas la développer trop longuement, je le fais dans mes livres, mais grosso modo, elle tient en une phrase. C'est la crainte des conséquences imprévisibles de nos actions. Des actions de l'homme, en particulier sur son environnement et pour la santé publique. Cette crainte, elle a bien des racines historiques, elle a des racines philosophiques aussi, probablement chez Hans Jonas, justement, et son principe responsabilité. Ce qui fait que nous sommes dans une rhétorique de l'intimidation permanente. Et nous focalisons l'opinion publique perpétuellement sur les conséquences de notre action, en ne voyant jamais les conséquences de notre inaction. Il est normal que nous nous préoccupions des conséquences de notre action. Nous pouvons nous autodétruire. Donc, je ne suis pas opposé à la prudence, par exemple, ou à la précaution, selon qu'on l'a défini. Mais si vous prenez le principe de précaution pour y revenir, il est entièrement consacré aux conséquences de notre action. Et il reste totalement aveugle sur les conséquences de notre inaction. Alors, pour le vaccin, c'est très intéressant parce qu'on est exactement là-dedans. Récemment, des parents ont refusé de faire vacciner leurs enfants en France. Et d'ailleurs, ils ont eu des problèmes juridiques parce que le Conseil constitutionnel vient de confirmer cette obligation de vaccination pour les enfants, de certains vaccins. Et qu'est-ce qu'a dit le père? Le père a dit d'abord, je ne suis pas fou, je le crois tout à fait. Je ne viens pas d'une secte, etc. Je ne suis pas un radical. Mais, et cette phrase est très intéressante, je ne veux pas jouer à la roulette russe avec la santé de mes enfants. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il était tout à fait incapable d'assumer les conséquences de son action s'il vaccinait, mais que ça ne lui posait aucun problème les conséquences de son inaction, c'est-à-dire ne pas vacciner son enfant. Et c'est bien là le problème. Toutes nos craintes sont organisées autour de ce socle bancal. Alors, en revanche, si ce sophisme est très répandu, parce que les produits de la peur sont des très bons produits cognitifs sur un marché dérégulé, les médias et nous tous, nous sommes responsables de cette situation, il est vrai qu'il y a des spécificités nationales. Le nucléaire est l'exemple, sans doute le meilleur. Alors, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je dirais qu'il y a sans doute des raisons historiques à cela. Premièrement, la France, on le sait bien, s'est engagée depuis longtemps dans un programme nucléaire de tentative d'indépendance énergétique. Et je suppose que, à la fois l'économie française et les Français sont attachés identitairement, en partie, à cette production. Mais le nucléaire est craint aussi en France, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a une énorme différence avec l'Allemagne. Je suppose aussi que les forces politiques sont importantes. Les Verts ont eu classiquement une puissance électorale plus grande qu'en France. Et je suppose qu'il y a eu là une dissémination d'une certaine culture anti-nucléaire. Mais il faudrait le voir. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cette question. Très intéressante aussi. Et la différence que vous signalez concernant la question de la protection des données. Là encore, les Français sont très sensibles à cette question, mais pas au point, semble-t-il, des Allemands. Je ne saurais comment expliquer ça, mais peut-être est-ce des ersatz, des souvenirs de l'Allemagne de l'Est pour une partie des Allemands qui ont beaucoup souffert de cette surveillance et même pour les Allemands de l'Ouest qui ont été confrontés dialectiquement à cette surveillance et qui ont peut-être une sensibilité qu'on comprend parfaitement aiguë sur ce point. Après, il faut être très attentif sur les différences nationales, par exemple en termes de santé publique, parce qu'il y a des points aveugles. Par exemple, en matière de dons d'organes. Les Allemands sont moins de 20% à donner leur organe, alors que les Autrichiens sont presque 100%. 4% des Danois donnent leur organe, alors que 90% des Suédois le font. Donc vous voyez, on est très étonné par ces résultats, tout simplement parce qu'on se dit, je pense que ce sont des peuples différents, mais on voit bien qu'il y a quand même des similarités culturelles, donc on est très étonné par ces résultats. Et ça ne tient pas du tout à des différences culturelles en réalité, ça tient à la façon dont on pose la question. Si on demande aux gens de cocher une case pour dire « je veux donner mes organes » ou de cocher une case pour dire « je ne veux pas donner mes organes », les réponses sont extrêmement différentes. C'est un point intéressant parce qu'il vient d'être débattu il n'y a pas si longtemps au Parlement avec quelques questions de députés qui disaient « mais il faudrait que les gens soient absolument volontaires consciemment pour donner leur organe, que ça ne soit pas une acceptation par défaut. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont rendre service aux 19 000 personnes qui attendent un don d'organes en France ».
Oui, c'est l'histoire que racontait Pierre Daninos du vendeur d'assurance vie qui ne vendait pas d'assurance vie parce qu'il disait aux gens « si vous mouriez demain », et sa perspective leur était fort désagréable, et quand il a compris qu'il fallait dire « si vous étiez mort hier » et que les gens pouvaient vérifier qu'il ne l'était pas, il s'est mis à vendre beaucoup d'assurance vie. Sylvie Kaufmann.
Je voudrais vous interroger sur le climat et ce débat d'une virulence extraordinaire qui a eu lieu sur le réchauffement climatique et cet antagonisme entre les climato-sceptiques et ceux qui considèrent que le réchauffement climatique est l'œuvre de l'homme. Comment est-ce que vous expliquez cette virulence qui vraiment a atteint des sommets extraordinaires, particulièrement en France? Quelle est la raison de cette violence?
Gérald Bronner.
Alors d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas climato-sceptique du tout. Hein. Je crois au réchauffement climatique et à l'impact de l'homme sur ce réchauffement. Je pense qu'il s'agit d'une vraie question d'inquiétude qu'il faut pas sous-estimer. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, je suis obligé de dire ça, vous voyez, par précaution justement, pour qu'on ne prête pas de... Vous voyez combien le sujet, vous avez raison, est délicat. Hein. En revanche, il est évident que ce sujet peut constituer aussi une forme d'intimidation terrible sur l'avenir. C'est-à-dire que, compte tenu des risques apocalyptiques que nous sommes censés prendre par notre activité industrielle, entre autres, certains nous disent qu'on devrait enserrer le présent, en quelque sorte dessécher le présent pour ne pas prendre dans l'avenir un certain nombre de risques. Et... Il y a plein de dangers qui pourraient pointer à l'avenir. Hein. Le réchauffement climatique n'est pas le seul. Nous pourrions être percutés par un objet géocroiseur de grande taille, par exemple. La baisse d'efficacité des antibiotiques est pour moi une vraie question d'inquiétude. Il y a donc des raisons d'avoir peur de certains sujets. Bon. Et il y a des raisons d'avoir peur du réchauffement climatique. Il faut regarder ça avec beaucoup de sérieux. En revanche, on peut se méfier de la mise en scène apocalyptique de ce risque. N'est-ce pas? Parce que faut pas oublier que sur la base de ce risque, certains comme James Lovelock, par exemple, ont proposé de suspendre la démocratie. Certains parlent de tyrannie bienveillante. Donc là, si vous voulez, dans la série de l'invasion des interdits, certains proposent de surveiller le moindre de nos actes pour qu'il ne soit pas trop énergivore, etc., etc. Alors, je me méfie beaucoup du coup de ce discours, de cette rhétorique de l'intimidation. Et en répondant à votre question, je pense tout simplement que les enjeux sont mis en scène de façon tellement apocalyptique qu'il est normal que le débat se tende. Alors, on sait qu'il y a un réchauffement climatique, on sait que l'activité de l'homme y a une part. Mais par contre, on sait très mal les conséquences en réalité, les modèles prédictifs sur les conséquences de ce réchauffement climatique. Si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste, hein, je dis peut-être une bêtise, mais si j'ai bien compris, les modèles prédictifs sur ces conséquences sont très incertains. Et à partir du moment où vous êtes dans une forme d'incertitude, eh bien, cela laisse toute latence à l'idéologie pour instrumentaliser cette incertitude. Moi, j'essaye, en citoyen, j'espère, raisonnable, de suspendre mon jugement et de bien prendre garde que les mesures préventives à cet apocalypse n'en serrent pas le présent au point de désespérer absolument le futur.
Il y a dans des gens qui instrumentalisent cette incertitude, vraiment une volonté et une stratégie de jouer sur la peur, enfin très 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 clairement et de manière vraiment...
Ah oui,
très...
ça porte même un nom, ça s'appelle l'heuristique de la peur, c'est voilà. Anjonas, hein, je reviens à lui, la base de Anjonas, c'est ça, c'est de dire comme il y a une imprédictibilité de notre activité technologique pour le lointain futur, eh bien nous devons nous abstenir d'un certain nombre d'actes dans le présent qui pourraient peut-être avoir des conséquences apocalyptiques dans le futur. Je vous rappelle que sur cette base, par exemple, on aurait arrêté le LHC, le grand collisionneur de Hadron, qui nous a permis de découvrir le boson de Higgs. Et je réponds à Jonas, peut-être qu'il y a une imprédictibilité négative de nos actions, mais il y a aussi une imprédictibilité positive. C'est-à-dire qu'en enserrant le présent, en l'empêchant de se déployer technologiquement, nous privons peut-être nos enfants de ressources qui les sauveront. Encore une fois, c'est l'aveuglement aux conséquences de notre inaction et la focalisation, l'hypnotisme que constituent les conséquences de notre action.
Oui, dans un sens assez semblable, le respect le plus poussé du principe de précaution voudrait que tout le monde s'arrêtât de procréer.
Oui.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, on a le sentiment qu'il y a un lien entre ce climat un peu paranoïaque que vous décrivez et l'impuissance des politiques. Je veux dire que, traditionnellement, les gens attendaient beaucoup de la politique. Enfin, il y avait en tout cas des mécanismes de causalité, soit des mécanismes de causalité religieuse, allant même l'antisémitisme ou des choses comme ça, des mécanismes de causalité politique mettant en cause certaines catégories sociales, mettant en cause l'ennemi héréditaire, l'Allemagne, la France, etc. Et au bout du compte, on était quand même dans un univers où l'ennemi politique, le tyran par rapport... Et on était dans un univers qui, de ce point de vue-là, était assez rassurant parce que l'ennemi était très clairement identifié et qu'il s'agissait de se prémunir par des moyens politiques des effets négatifs de ce qui pouvait être produit. Là, on a quand même le sentiment que c'est un problème de causalité. Il y a une causalité qui n'est même plus diabolique, comme dirait l'autre. Il y a une causalité mystérieuse et on a l'impression que les hommes politiques sont totalement impuissants à résoudre quoi que ce soit en matière de croissance, d'emploi, de réchauffement climatique, de protection contre les migrations, contre les maladies. Enfin, tout ça échappe globalement à l'autorité publique. Et ça entraîne, je crois, deux choses, c'est-à-dire un transfert de la responsabilité maléfique, de la causalité diabolique vers la technologie, et en même temps un transfert de la politique vers ce qui n'est pas de la politique, ce qui est la juridicisation du système. Et est-ce que dans cette affaire-là, il n'y aurait pas je dis pas la solution parce que c'est absurde de parler de solution, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin dans l'idée de reconstruire au niveau européen, au niveau même de l'ONU, c'est un chemin utopique bien sûr que je dessine là, mais de reconstruire des capacités d'action politique qui seraient de nature à rendre aux gens le sentiment que l'affaire, leur destin social, collectif, est plus ou moins contrôlé politiquement.
Gérald Bronner.
Mais je suis totalement d'accord avec vous. Je me sens plutôt internationaliste, exactement pour les raisons que vous venez de déployer. Ceci dit, ce sentiment d'impuissance que l'on a vis-à-vis du politique est pas du tout infondé, bien entendu, puisqu'en effet, un certain nombre de choses leur échappent, notamment les flux économiques, les flux financiers, même à la limite au niveau de la fiscalité, les flux migratoires, la délinquance, les questions climatiques, les questions sanitaires, une épidémie ne s'arrête pas aux frontières. Enfin, on a l'impression que le politique traditionnel a perdu toute une partie de prérogatives géographiques, en quelque sorte, et qu'en effet, une façon pour lui d'affirmer son autorité, c'est de se replier sur des interdits qui concernent notre vie privée, notre alimentation, entre autres, etc. Ça, c'est une première chose. Et en effet, nous traversons une crise qui n'est pas injustifiée du politique. Je pense que c'est presque une crise territoriale, en réalité. Oui, et une des réponses à cette crise territoriale, c'est, pour certains, et c'est d'ailleurs un stigmate tout à fait significatif, le retour à l'idée d'une nation puissante. Hein, on trouve ça évidemment traditionnellement à l'extrême droite, ça c'est pas sans surprise, mais aussi vous l'aurez remarqué dans l'extrême gauche, alors qu'elle avait un code génétique un peu internationaliste. Donc on peut s'étonner qu'une, certes pas toute, hein, mais qu'une certaine extrême gauche en revienne à l'idée d'un État qui serait un État punitif contre cette internationalisation malfaisante en réalité. Alors qu'elle est malfaisante, si on veut, elle a des effets pervers, mais surtout par manque d'espace politique, comme vous l'avez souligné, même si en effet il y a quelque chose d'utopique dans cet internationalisme. Mais en même temps, l'utopie disparaît à l'horizon de la nécessité. Je pense que nécessité fait loi à un moment. Et il y a une autre forme d'expression de revendication politique qui est assez intéressante et qui, à mon avis, le pile de cette pièce, c'est les revendications de démocratie locale. Hein, puisqu'on a le sentiment, parce que le politique est aussi impuissant, qu'il nous trahit. Je revenais un peu sur cette idée. Il y a l'idée quand même qu'on retrouve presque un peu partout aussi de trahison du peuple, qui est un item populiste très fort. Et cette trahison du peuple, elle est mise en scène par des demandes incessantes de démocratie locale, participative, délibérative, à la limite même par les ZAD. C'est-à-dire que le peuple est devenu une marionnette et il y a plein de ventriloques. Tout le monde met la main dans la marionnette et fait parler ce peuple. Et généralement, ce peuple est accusateur à l'endroit du politique. Alors effectivement, le grand responsable, le grand lien de causalité maléfique que vous mentionniez, il n'a pas totalement disparu, il s'est métamorphosé. C'est peut-être moins des catégories ethniques, quoique, hein, on pourrait discuter. Mais bien entendu, la technologie, la science, l'industrie aussi, hein, l'industrie et la volonté, encore une fois, de promulguer toutes sortes d'interdits pour punir. Il y a une dimension punitive dans l'idée de ces interdits.
Et il y a aussi quelque chose comme le refus de reconnaître qu'on ne peut pas agir sur ou contre tout. Je pense par exemple à la circulation, la sécurité routière. La cause principale de la mortalité, c'est les endormissements au volant sur les autoroutes. On ne peut rien faire, il n'y a pas de loi qui interdise aux gens de s'endormir au volant et dont on pourrait vérifier. Le nombre d'accidents dus à l'utilisation du téléphone portable, avec ou sans main libre, est pas très bien connu, mais il est soupçonné d'être important. Mais autant on peut vous faire souffler dans un machin qui montre que vous avez bu au-delà d'un seuil qui a été fixé à juste ou injuste titre, peu importe, mais on ne peut pas vous faire souffler dans quelque chose qui montre que vous avez téléphoné. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un surinvestissement des sujets sur lesquels il y a des mesures possibles ou sur lesquels il y a des punitions possibles avec une certaine certitude? Je prends aussi l'exemple du vin. Qu'est-ce qui fonde l'interdiction de la publicité du vin? Est-ce que c'est la démonstration qu'il y a un lien entre le vin et l'alcoolisme? Je ne la connais pas. Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'une fois qu'on a constitué un objet dont on peut mesurer les effets, on est sûr de pouvoir mettre en place un système punitif?
Oui, c'est un peu la continuation de notre échange avec Jean-Louis Bourlange. Effectivement, je dirais que la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, le politique remplit les espaces qui lui sont encore possibles. Et comme ces espaces sont de plus en plus restreints, eh bien, voilà, il fait valoir son pouvoir, en particulier son pouvoir d'interdiction. Et ce qui est saillant, c'est que ce pouvoir, il s'insinue dans nos vies quotidiennes. Et évidemment, il y a aussi cette histoire d'idéologie que je mentionnais tout à l'heure. Alors, ce qui est tout à fait drôle, c'est les normes. Vous mentionnez, par exemple, l'alcoolisme au volant, on peut le mesurer, mais c'est une norme qui augmente toujours plus. Et si vous prenez toutes les normes sécuritaires, elles augmentent toujours plus, que ce soit l'émission des ondes, etc., etc., qu'il y ait ou non un fondement scientifique. C'est-à-dire, c'est comme si on était dans un marchandage permanent, avec la représentation qu'on se fait de l'opinion publique, et il faut, à temps régulier, concéder quelque chose. Mais jusqu'où? Jusqu'au déraisonnable, puisqu'il ne faut pas oublier que l'instauration de ces normes, elle a un coût économique, elle a un coût humain aussi, elle peut avoir aussi un coût sanitaire.
Hein. De l'opinion publique ou des lobbies?
Mais tout cela se mêle, c'est-à-dire, j'ai pas parlé de l'opinion publique, j'ai dit la représentation de l'opinion publique, c'est-à-dire le sentiment que le politique a, l'idée qu'il se fait de ce que voudraient les Français. Et il n'a qu'un échantillon, là encore, il peut lui aussi être victime de la confusion entre visibilité et représentativité. Et le jeu de ces acteurs sociaux que je mentionnais tout à l'heure, les ventriloques, c'est justement de faire croire si possible à un certain nombre de décideurs que c'est ça que voudraient les Français. Et il y a une cacophonie terrible autour de ces questions. Donc ce qu'il nous faudrait tout de même, c'est penser les structures de l'exercice politique. Il y a bien entendu la géographie du politique, mais aussi la question du mandat. Je suis relativement favorable au mandat unique pour cette raison, pour libérer, si vous voulez, la décision politique de la représentation fantasmée de cette opinion publique. Un mandat qui pourrait être peut-être plus long, notamment présidentiel, mais non renouvelable.
Michaël Aviguel.
Oui, j'avais envie de vous demander s'il existe pour vous un lien entre ce phénomène dont on parle, de la multiplication des interdits, et la sécularisation de plus en plus poussée des sociétés occidentales. J'en parle parce que en Allemagne, par exemple, l'alimentation est devenue vraiment une ersatz de religion. On fait des pèlerinages à la ferme bio à côté. On a des rites, comment préparer les choses. Et donc, je me demande si, justement, vous venez de le dire, la nature a l'horreur du vide, est-ce qu'il y a ce besoin, malgré le fait que la pratique religieuse dans toutes ces sociétés est en grande régression, est-ce que, justement, ça donne des règles et des ordres qui sont un besoin? Et effectivement, on l'a dit, en France, l'interdiction bancaire pour les femmes, c'était encore un interdit qui était justifié par une religion. Aujourd'hui, on n'a plus cette base justificative, donc ça nous énerve un peu plus. Enfin, moi, ça m'intéresse, mes idées ne sont pas très claires, mais si vous voyez un lien entre sécularisation et multiplication des interdits.
Gérald Bronner.
Ben oui, c'est un peu ce que j'avais dit en introduction, justement, que précisément, les interdits d'inspiration religieuse ont beaucoup reculé, la position de la femme, je parlais aussi des pratiques sexuelles, par exemple, on pourrait trouver toutes sortes d'exemples, mais qu'en effet, les interdits d'aujourd'hui sont inspirés, me semble-t-il, par une forme d'idéologie qui n'est pas si éloignée d'une pensée religieuse, hein, mais c'est substitué aux mots traditionnels de la religion, les termes très ambigus de biodiversité, que sais-je, de durabilité, etc., qui ne sont pas, encore une fois, de même que je disais que certaines propositions morales inspirées de la religion ne manquent pas forcément de bon sens. Hein. Là, il peut y avoir des choses intéressantes, mais si vous voyez certains des prophètes, je dirais, de cette nouvelle idéologie, ils parlent un peu comme des prophètes. Enfin, il suffit, excusez-moi, je ne veux pas me faire des amis, mais il suffit d'écouter Pierre Rabhi, par exemple, et l'audience, je dirais, acidulée qu'on lui accorde, alors qu'il dit, de mon point de vue, beaucoup de bêtises et surtout des mensonges. Quand il prétend, par exemple, pouvoir nourrir la planète avec ses méthodes, je me dis, c'est faux. C'est tout simplement faux, mais voilà, il dit des phrases du genre il y a une vie avant la mort, de belles phrases que éventuellement Paolo Coelho pourrait concurrencer, si vous voulez, Monsieur Rabhi, ou quand par exemple José Bové, oui, il y a quelques concurrents quand même, José Bové par exemple met dans le même sac la GPA et les OGM, c'est tout à fait intéressant sur les compulsions idéologiques voire crypto-religieuses qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire l'idée de la condamnation de l'action de l'homme sur la nature qu'il convient dans ce cadre d'écrire avec un N majuscule, bien entendu. J'adore la nature, mais je n'ai pas envie d'en faire une personne. Quand je chasse Dieu par la porte, je n'ai pas envie qu'il revienne par la fenêtre.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, le problème que vous posez sur la surenchère, qui est quelque chose que j'ai vraiment vécu quand j'étais parlementaire européen, c'est-à-dire qu'effectivement, face à un risque comme par exemple les émissions d'oxyde de carbone, de choses comme ça, la tendance est de dire, bon, on fixe une norme et en fait on n'est pas satisfait parce qu'il y a toujours un risque et donc l'étape suivante c'est de fixer une norme plus sévère. Ça c'est quelque chose d'absolument troublant parce qu'à aucun moment on essaie de fixer la bonne norme. C'est-à-dire la norme, pourquoi on ne peut pas fixer la bonne norme? Et c'est là la question que je vous pose, est-ce que c'est pas absolument inévitable à partir du moment où on identifie, parce qu'on a des capacités d'évaluation de la toxicité des choses bien supérieures à ce qu'elles étaient naguère, à partir du moment où on identifie qu'il y aura toujours quelque chose qui contrariera le principe de précaution, quelque chose de, il y aura toujours un risque, un risque que les gens meurent d'un cancer du foie en buvant du vin, meurent d'un cancer du poumon en fumant une cigarette, meurent d'insuffisance respiratoire avec la pollution, etc. On aura toujours cette tendance à aller plus loin. Et est-ce que véritablement on peut imaginer des instances qui introduiraient une sorte de mesure qui serait respectée. Est-ce qu'on peut reconstruire parce que c'est pas l'Académie des sciences qui est très bien, mais les pouvoirs académiques, les corps intermédiaires, tout ça n'ont pas vraiment d'autorité morale. Les comités d'éthique un peu plus. Hein, on écoute un peu ce que dit le comité d'éthique sur la fin de vie, sur des choses comme ça. Mais est-ce qu'il est possible de reconstituer des instances qui disent oui, écoutez. Évidemment, si on veut réduire les accidents de la route, le mieux c'est d'interdire la circulation, parce qu'il y aura toujours moins d'accidents de la route si tout le monde roule à 40 à l'heure, si les gens, ensuite on ira à 20, et si on ira à 10, on s'arrête. Est-ce qu'il est possible d'imaginer des autorités sociales, morales, scientifiques, qui évidemment ne seraient pas infaillibles, mais qui disposeraient quand même dans l'univers médiatisé qui est le nôtre, d'une sorte d'aura, de respectabilité, qui ferait qu'on les écouterait et qu'il introduirait un peu de bon sens. Je trouve que ça manque terriblement.
Question complémentaire à celle de Jean-Luc Bourlange, qui porte là, non pas sur l'accentuation constante de la sévérité des interdictions, ou l'abaissement constant du seuil des choses tolérées, des comportements tolérés, mais sur les champs d'application. Et au fond, quand vous regardez en arrière, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous n'êtes pas saisi par l'extension constante, non pas du domaine de la lutte, mais du domaine des interdictions possibles. Et Jean-Louis Bourlange suggérait qu'on interdise complètement la circulation afin d'amener à zéro le nombre des accidents de la route, mesure dont le bon sens n'aura échappé à personne. Mais une fois que ce sera fait, il va falloir interdire, enfin prendre des mesures qui rendront de moins en moins nombreux les accidents domestiques. Et on sait que l'endroit le plus dangereux dans ce monde, c'est une cuisine. C'est là où il y a le plus d'accidents mortels, par tout un tas de moyens. On peut brûler, on peut tomber sur l'arête d'un implant de travail, etc., etc. Et au fond, est-ce que vous voyez dans la société des forces suffisamment puissantes ou susceptibles de le devenir qui puissent à la fois mettre un peu de bon sens dans l'extension du domaine des interdictions, de l'abaissement des seuils et dans l'extension du champ d'application de ces interdictions?
Voilà, des travaux d'Hercule.
Question dite à 64 000 dollars.
Je dirais que quand même, s'il y a une solution, la solution se situe tout de même dans le domaine des représentations collectives et des croyances avant tout. Parce qu'on aura beau faire par exemple une instance d'experts mixtes avec des ONG, etc. Si elle prend pas la direction des compulsions précautionnistes, elle sera bientôt soupçonnée de toute façon et on trouvera mille raisons de soupçonner les uns de conflits d'intérêts et je ne sais quoi, qui peuvent être objectivement fondées ou pas. Donc je crois qu'à la limite, ça sera la conclusion d'un processus de renouement de la confiance. Et je pense que ce processus, il peut se faire, en fait, il fera pas de top-down, il viendra pas du haut, en quelque sorte. Il ne peut venir que d'une prise de conscience de nos concitoyens, et je crois même une nouvelle forme de militance des citoyens, je dirais, raisonnables, qui doivent prendre toute leur place sur ce marché de l'information dérégulé. Parce que qu'est-ce qui se passe en un mot? On dit souvent que Internet, c'est une démocratie, ça a démocratisé l'information, oui, si l'on veut, mais d'un autre côté, c'est une démocratie où certains votent mille fois et d'autres jamais. Voilà. Et ceux qui ne votent jamais, je le crains, sont les plus raisonnables de nos concitoyens. Donc je pense que ces concitoyens doivent prendre toute leur place dans l'espace des réseaux sociaux, des forums, pour pied à pied, par exemple sur le vaccin, par exemple sur telle ou telle thématique, lutter contre les idées loufoques, déraisonnables et certaines fois dangereuses qui se répandent, comme les idées conspirationnistes. Et ensuite, nous aurons créé des digues, je dirais, raisonnables, qui fera que les indécis dans notre société, ils sont très nombreux sur plein de sujets, la société est très technique, c'est difficile de savoir si les ondes sont dangereuses, si ceci s'est vraiment empoisonné, s'il faut croire qu'un tel a manipulé un tel, c'est très difficile de se faire un point de vue raisonnable, mais si le seul outil que vous avez pour vous faire un point de vue raisonnable, c'est une visibilité d'informations loufoques, il est évident que peu à peu, et c'est vraiment le cas pour les vaccins, on a une partie de la population qui bascule vers des idées qui sont pas véritablement en face, je dirais, avec l'intérêt général. Donc je pense que ça commence par là. Et peut-être qu'on est arrivé au bon moment, peut-être que l'affaire Charlie Hebdo, d'une certaine façon, pourrait être un déclencheur de prise de conscience qu'il faut que chacun se prenne en main. Parce que c'est bien beau aussi d'accuser l'État, les politiques, d'investir notre vie privée, mais c'est aussi à nous de la défendre. N'attendons pas aux politiques de nous mettre sous tutelle, nous ne sommes pas des enfants. Peut-être qu'il est temps de rentrer dans l'ère d'une démocratie avec des citoyens totalement adultes.
Jean-Louis Bourlange.
Juste un mot. Est-ce que j'ai été très, très impressionné par ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'opposition entre le risque de l'inaction et le risque de l'action. Et le fait que nos sociétés, en fait, occultaient complètement le risque de l'action. Est-ce que ça ne serait pas une piste, alors, juridique pour, non pas abroger, mais modifier le principe de précaution en introduisant une formulation différente du principe de précaution qui ferait paraître, justement, la comparaison entre le risque de l'inaction et le risque de la chance et le risque d'action. Mais c'est quand même possible de rédiger quelque chose qui tiendrait la route.
Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire.
Sylvie Kaufmann.
Juste, vous parliez tout à l'heure d'Internet, du rôle d'Internet et de la multiplication des gens, des opinions déraisonnables et de l'influence, de l'impact de ces. Mais c'est très paradoxal parce que la fonction d'Internet, c'est aussi de donner accès à beaucoup plus d'informations. Par exemple, sur le plan médical, on peut aller chercher, faire ses propres recherches et avoir accès à énormément d'informations tout à fait raisonnables, valides, scientifiques.
Avoir accès à énormément de maladies qu'on n'a pas, notamment.
C'est vrai, c'est vrai.
À tous les possibles.
Or, ça a aussi l'effet inverse. Donc, comment Alors, je suis d'accord, ça serait formidable si tout le monde était raisonnable et prenait la, si tous les gens raisonnables prenaient la parole et arrivaient à être, à se faire entendre mieux que les fous et les radicaux. Mais bon, ça, c'est une autre.
Ah,
c'est
le militant autre... européen que je suis peut vous dire que celui qui tient le discours de raison par rapport à celui qui tient le discours de passion n'a pas gagné la
et
partie.
Voilà, c'est une autre utopie. Donc, comment essayer d'organiser justement cette contre.
Écoutez, vous avez parfaitement raison. Il y a d'abord Internet, un outil formidable, on s'en sert tous les jours. Et il y a plein de données qui sont tout à fait fiables. Mais encore une fois, quelle est la visibilité de ces données fiables par rapport aux données non fiables? Si vous prenez les 30 premiers sites que vous propose Google sur toute une série de sujets, tapez à la fin de cette émission, tapez par exemple danger vaccin, ou tapez même astrologie ou monstre du Loch Ness, parce que je l'ai fait en l'occurrence, j'expose ces résultats dans mes livres, et vous verrez qu'en moyenne, 70 à 80% des sites sont favorables à la croyance. Donc, mettez-vous à la position, dans la place de quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas. Celui qui sait, qui a un point de vue, il ne va pas se laisser influencer par cette structuration du marché de l'information. Mais celui qui ne sait pas va être statistiquement impacté par cette structuration. Donc, il y a beau avoir des informations très intéressantes et disponibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont très visibles. Alors, que faire? Moi, je ne suis pas tellement... par nature, je ne suis pas tellement pour la promulgation de lois liberticides, pour enserrer un marché. Je me suis exprimé tout à l'heure, je compte, c'est peut-être un peu utopique, comme cet internationalisme dont on a parlé, mais je crois que tant qu'il y a de l'humain, il y a de l'espoir, et je pense, encore une fois, qu'il faut inciter les gens qui ont peut-être sous-estimé l'importance pour nos démocraties de la politique de la chaise vide sur ce marché de l'information. Il faut inciter chacun de nos concitoyens à prendre sa place sur ce marché de l'information.
Michael Avigal.
Oui, vous avez mentionné l'importance des théories conspirationnistes. Ça a toujours existé, mais j'ai l'impression, quand je regarde les jeunes générations qui s'en forment principalement avec leur téléphone portable et sur Internet, ces théories conspirationnistes se répandent beaucoup plus vite, sont beaucoup moins construites et donc beaucoup plus difficiles à démonter parce qu'il y a toujours une petite part de vérité.
Gérald Bronner.
Oui, évidemment, les théories conspirationnistes ont toujours existé. Seulement, en effet, elles existaient souvent dans des espaces confinés de radicalité. Elles ont essaimé très au-delà dans l'espace public, encore une fois grâce à la dérégulation, qui lui accorde une plus grande performance. D'abord, effectivement, la rapidité, vous l'avez dit. Par exemple, j'ai mesuré que pour l'affaire Charlie Hebdo, on a tous vu qu'il y avait des théories du complot. Le premier jour, le 7 janvier, 24 arguments en faveur de la théorie du complot était déjà apparu. Donc ça, c'est un inédit historique, si vous voulez. Même pour les anciennes théories du complot, par exemple, la théorie du complot concernant les attentats de Boston, il y avait 4 arguments le même jour, ce qui était déjà beaucoup. Mais là, on est à 24 arguments. Donc on voit bien. Et pourquoi? Parce que ces théories, elles bénéficient d'une intelligence en essaim. Des milliers de personnes vont fouiller les films, les vidéos, les photos et vont repérer la couleur du rétroviseur, vont repérer que François Hollande est arrivé soi-disant trop tôt sur les lieux, etc., etc. Vous connaissez ces arguments. Donc en fait, je serais simplement en désaccord avec un point, c'est que je pense qu'en plus elles sont beaucoup plus performantes, les théories du complot, qu'avant, parce que précisément elles peuvent bénéficier de ce que j'appelle un millefeuille argumentatif, c'est-à-dire d'un ensemble aberrant d'arguments. La plupart sont fragiles, mais le tout donne une impression de vérité. C'est-à-dire que les gens s'en moquent qu'il y ait un ou deux arguments faux. Ils disent, dans le fond, tout ne peut pas être faux.
Merci. C'est sur cette constatation optimiste que nous allons terminer cette émission en vous remerciant, Gérald Bronner. C'était donc L'Esprit public, réalisé par Luc-Jean Reynaud, préparé avec Marketa Zatloukalova et Pierre de Romanet, avec aujourd'hui à la technique Manon Houssin. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission thématique d'été. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Krugère pour son émission « On ne parle pas la bouche pleine ». Il reçoit Michel Oliver, chef cuisinier comme l'on sait, et leur émission s'intitule « La cuisine d'un jeu d'enfant terrible ».